Cet épisode de la vie de Jésus se situe entre les rameaux et Pâques, quelques jours avant la crucifixion. Donc la mort approche pour lui. Et c'est dire aussi à quel point l'ambiance est assez tendue entre Jésus et les chefs de religieux qui, là aussi, encore une fois, le mettent à l'épreuve et lui posent une question piège. Parmi ces chefs religieux, les Sadducéens. Alors, qui sont les Sadducéens ? Ils sont très virulents et ils forment le parti des prêtres. Les Sadducéens doivent leur nom à Sadoc, qui est le grand prêtre du temple de Salomon, donc le premier temple, et sont donc très attachés à ce qu'on appellerait la tradition. Pour eux, rien ne doit changer. Tout doit rester immuable. Il faut toujours rester dans l'état dans lequel on se trouve. L'important, c'est de faire partie, pour eux, du peuple de Dieu et d'être au bénéfice de l'alliance, cette grande alliance passée entre Dieu et les pères. C'est au nom de cette tradition qu'ils attaquent Jésus, au sujet de la doctrine relative à la résurrection. Et le texte nous dit, Luc, les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Alors, c'est quoi l'espérance des Sadducéens ? Et puis, c'est quoi l'espérance de l'humanité face à la mort ? Nous avons dans notre temps de vie, finalement, un petit éclair de lumière dans un océan sombre d'inexistence ressentie, d'avant la vie ou d'après la vie. Et de tout temps, l'homme a nié la mort, parce qu'il voyait bien, malgré cela, qu'il ne pouvait pas accepter au fond de lui-même le fait de n'être que cette petite étincelle de lumière dans l'immensité sombre, sans trouver un sens, sans se poser la question de savoir pourquoi nous sommes là, vivants. Mais l'homme a bien vu que le corps vieillit et meurt. Il a fallu élaborer des systèmes permettant de croire que la mort n'était pas définitive. Pour simplifier, on peut dire que l'humanité a imaginé 4 façons possibles de survivre au-delà de la mort. La première, qu'on appellerait la post-existence à l'état d'ombre sans vie véritable, a été partagée par les peuples à l'origine, si on prend vraiment les peuples les plus anciens dans le monde. Une post-existence à l'état d'ombre sans vie véritable, c'est dans le Sheol hébreu, et c'est le livre de l'Ecclésiaste qui nous le présente, vous regarderez au chapitre 9, verset 10, comme un lieu dans lequel il n'y a ni œuvre, ni raison, ni savoir, ni sagesse, dans le séjour des morts où tu vas. Ça, c'est le texte dans l'Ecclésiaste. On se demande s'il y a alors de la vie, puisqu'il n'y a ni raison, ni savoir, ni sens de la vie. Chez les Grecs, vous connaissez peut-être l'Hadès. L'Hadès n'est pas plus réjouissant. Et cette hypothèse-là n'est pas porteuse d'espérance. Aussi, assez rapidement, d'autres théories vont naître, d'autres approches vont émerger. La deuxième, c'est celle de l'immortalité de l'âme. Les Grecs ont été ceux qui ont systématisé cette théorie, qui était déjà dans le conscient collectif. Immortalité de l'âme selon laquelle il existe en l'être humain une dimension naturellement divine qui survit après la mort. Et c'est ce qu'on appellera l'âme. Par son âme, l'être humain serait donc naturellement immortel et, soit dit en passant, n'a pas vraiment besoin, pour les Grecs, de Dieu, notre Dieu unique, pour avoir la vie éternelle. Cela aussi a donné avec Paul cette opposition assez dommageable, il faut bien le dire, entre d'un côté le corps qui serait à la fois vil, périssable, et puis une âme qui serait pure et immortelle. Une sorte d'opposition excessive entre le corps et l'âme. Ça a donné beaucoup de dommages ensuite sur, je dirais, la notion de plaisir dans la vie. Troisième approche, la réincarnation. Vous connaissez cette approche sans doute plus facilement. C'est celle qu'on trouvera, et je ne ferai pas un long commentaire là-dessus, plutôt en Orient, plutôt dans les religions d'extrême-Orient. Cette réincarnation est reprise dans les adeptes du culte d'Orphée grec, cette fois en parlant de métempsychose. Si ça vous intéresse de rechercher la métempsychose, c'est en gros cette réincarnation. Et puis enfin, La résurrection. La résurrection qui nous parle de sommeil de la mort, dans l'attente de la résurrection finale ou d'une résurrection particulière. Cette doctrine est apparue en Israël à partir de la moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc le livre de Daniel que nous avons entendu tout à l'heure nous le dit en ce temps, au chapitre 12, « En ce temps, beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront. » Elle est issue d'un courant des prophètes et a été adoptée par les pharisiens. Et en fait, Jésus partage ce point de vue et évidemment, il l'affirme haut et fort par rapport à ceux qui n'y croient pas, à savoir les Sadducéens dans notre texte. En fait, les Sadducéens restent fidèles à la position ancestrale du Sheol dont je vous parlais tout à l'heure. Au nom de la tradition et du Pentateuque, leurs autorités qui étaient vraiment dominantes en matière de doctrine religieuse. Les Sadducéens n'ont pas suivi la pensée prophétique. Elle est trop innovante pour eux. C'était trop nouveau pour eux. Et il est vrai qu'il n'y a aucun reçu de résurrection dans le Pentateuque. Je vous rappelle, le Pentateuque, c'est ensemble de 5 livres au début de l'Ancien Testament, et donc dans la loi. Alors que l'on retrouve quand même plusieurs récits de résurrection chez les prophètes ensuite, les prophètes Élie ou Élisée par exemple. Alors, nous avons vu que dans cette hypothèse du Sheol hébreu et de son royaume d'ombre, ce royaume d'ombre n'offre pas vraiment beaucoup d'espérance. Mais que reste-t-il donc aux Sadducéens comme espérance quand on n'adhère ni à l'immortalité de l'âme, ni à la réincarnation, ni à la résurrection? Pas grand-chose. Il reste en fait pour eux ce que la loi juive propose et qui transparaît dans l'histoire que les Sadducéens présentent à Jésus. La volonté de laisser sa trace dans le monde et de se faire un nom à travers sa descendance. C'est parce que la loi ne propose pas d'autre espérance qu'elle fait tout pour que chacun puisse avoir des enfants. Et ça a donné un dogme relativement rigide de dynastie et de faire des enfants absolument, de mettre la procréation toujours un peu en valeur dans nos sociétés. Et en fait, selon la Torah, c'est par ses enfants qu'un homme, et on peut quand même ajouter, et une femme, se réalisent, s'épanouissent. Avec tous les problèmes psychologiques que cela peut entraîner, car chacun est appelé non pas à se réaliser, à s'épanouir soi-même, en fonction de ses talents, en fonction de ses envies, en fonction de ce que Dieu attend de nous peut-être, individuellement, mais à accomplir uniquement les désirs des parents. Ça renforce le poids de la tradition, ça a renforcé le poids du patriarcat, ça a renforcé ce qu'on dirait aujourd'hui les notions de sexisme et de domination masculine. C'est ainsi que les Sadducéens racontent à Jésus cette histoire directement inspirée de Deutéronome 25, 5 à 10 et de la loi du Lévirat. En latin, Lévir, ça veut dire beau-frère, nous y voilà. Le fameux beau-frère qu'il faut épouser, c'est ce qu'on appelle la loi du Lévirat. Une loi qui prévoit la mort d'un homme qui n'a pas eu d'enfant et qui ne doit pas cependant rester sans descendance. Vous avez compris cette importance de la descendance. Sinon quoi, sinon sa mémoire est oubliée. Or la mémoire est la seule trace qu'un homme peut laisser. Elle est donc le moyen de son immortalité. C'est pourquoi il est prévu que son frère épouse sa veuve pour lui donner une descendance posthume. Mais alors, s'il y a résurrection, cette femme, après la résurrection, aurait plusieurs maris, interpellent les chefs sadducéens. Et ces plusieurs maris commencent à s'y retrouver. C'est inadmissible pour ces hommes à l'époque. Entre parenthèses, qui acceptent d'avoir plusieurs femmes. Par ce raisonnement, les Sadducéens ironisent au sujet de la résurrection en soumettant Jésus à un cas qui finalement la rendrait impossible, cette résurrection. La deuxième partie du texte, la réponse de Jésus. Et que va nous répondre Jésus? Il va nous répondre deux choses, une double réponse intéressante. Tout d'abord, il commence en disant, il va rejeter l'ironie des Sadducéens relative à la résurrection, en déclarant que le mariage n'est pas finalement si important que cela. Que le mariage est dans ce monde-ci, et puis que dans le monde d'après, on ne se marie pas. Que les ressuscités ne se marient pas. Entre parenthèses, cela a été évidemment exagérément interprété par nos amis catholiques qui n'ont jamais voulu se marier en tant que prêtre. Vous l'aurez remarqué. Mais Jésus ne parlait pas de la vie ici-bas. Il disait dans l'au-delà, après la résurrection. Les ressuscités ne se marient pas. Ça a dû d'ailleurs choquer les Sadducéens au passage. Comment en effet envisager une société sans mariage et donc sans enfants quand toute l'espérance reposait sur la procréation? En disant que les ressuscités ne prennent ni femme ni mari, Jésus présente une espérance qui se situe en dehors de la loi et de la tradition initiale, puisque celles-ci n'ont pour espérance que celle de la vie ici-bas et de la procréation. Mais la deuxième réponse de Jésus complète la première et finalement est encore plus intéressante. En effet, les Sadducéens ne voient d'immortalité que dans le fait de donner naissance à une sorte de dynastie, à l'image des patriarches dont on n'a pas oublié le nom parce qu'ils ont donné naissance à un peuple. Mais pour espérer, il faut donc être père. L'espérance qui met en dehors de l'alliance tout individu sans descendance, certes. Le mot père étant à prendre non seulement sur le plan biologique, mais aussi éducatif, moral, sur le plan philosophique ou spirituel. Être père, c'est donner des directives, c'est avoir du pouvoir, tracer une route, indiquer une direction à suivre, incarner le pouvoir paternel. C'est être maître de quelques disciples, on le verra bien. C'est être Dieu pour ceux qui suivent. Voilà où se situe l'espérance du salut des Sadducéens. C'est un salut par les œuvres, une œuvre de créateur à l'image du Père Céleste qui a créé l'homme. Dans sa réponse, Jésus, au verset 36, cite deux fois un mot qui s'oppose au mot de Père. C'est le mot « fils ». Quand il dit « ils sont fils de Dieu puisqu'ils sont fils de la résurrection ». Ces fils dont il déclare dans le même verset qu'ils ne peuvent plus mourir. Exactement ce que tout être humain recherche et désire, cette fameuse immortalité. L'immortalité, la vie éternelle. Jésus dit donc clairement que ce n'est pas en devenant père que l'on devient immortel, mais en étant fils. On renverse la logique. Vous comprenez ? Et tout simplement, contrairement à ce que veulent faire croire les Sadducéens, la loi et la tradition, ce n'est pas par la paternité qu'on obtient le salut, mais par la filiation. La vie éternelle ne s'acquiert pas, on la reçoit, comme la résurrection ne peut pas s'atteindre par soi-même. On ne ressuscite pas tout seul. Par là même, Jésus invite les Sadducéens et nous-mêmes à ne pas revendiquer une place de père, une place de chef, de maître, autonome et indépendant, mais à accepter la place de fils, de disciple, de suiveur, d'enfant du seul Père qui soit Dieu. Enfin, Jésus dit en quelque sorte aux Sadducéens, verset 37, « Vous qui référez sans cesse au Pentateuque et au Patriarche, souvenez-vous, comment Dieu se présente-t-il à Moïse dans le récit du buisson ardent ? Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. » Abraham, Isaac et Jacob, les grands patriarches, sont-ils morts ou sont-ils vivants? Or, les Sadducéens savent bien que les patriarches sont morts. Ils ne survivent que dans la mémoire de leurs enfants, dans la dynastie qu'ils ont pu créer. Mais cela signifie-t-il que Dieu est le Dieu des morts, puisqu'il est dit qu'il est le Dieu des patriarches? Non, dit Jésus, Dieu est le Dieu des vivants. N'est-ce pas contradictoire de dire que le Dieu des vivants et le Dieu des patriarches morts est le même? Et le seul moyen de lever cette contradiction, c'est de dire avec Jésus que pour Dieu, les patriarches sont vivants. Pour Dieu et non pas pour les Israélites. Les patriarches sont dans la même mémoire de Dieu et non de leurs enfants. Et le Père les ramènera à la vie quand il le voudra. Alors, l'être humain a toujours recherché la vie éternelle. Cette quête est devenue le modèle de toute recherche. Toute l'histoire et la société ont un peu hérité de cet esprit de domination, on l'a vu. de revendication, de puissance, de pouvoir. Pour avoir une espérance, Dieu nous invite non pas à prendre le pouvoir, mais à accepter d'être fils et non père. Nous sommes soumis au Père comme le Fils, comme le Christ a été soumis à son Père. Comme ce vivant qui a dit, souvenez-vous, je suis la résurrection et la vie. Dieu nous invite à être fils de Dieu, car lui seul est le Père. Ce n'est pas dans la mémoire de nos enfants que nous devons laisser notre trace, c'est dans la mémoire de Dieu que nous sommes sauvegardés. Comme quand on fait une sauvegarde de nos fichiers sur notre ordinateur. La provocation des Sadducéens était un piège tendu à Jésus, mais qui révèle de vraies questions derrière. C'est intéressant de s'arrêter 2 secondes. Comment retrouver ceux que l'on aime? Comment concevoir la résurrection autrement que par un fil continu du temps qui nous dépasse, qui nous fasse accepter que notre passage dans la vie terrestre, si court et si fugace, puisse avoir un sens dans la perspective d'un temps plus lent, un temps plus éternel? Que signifie pour nous la résurrection de la chair? Question aussi fondamentale. On pourrait faire tout un débat entre nous là-dessus, où je suis sûr que nous ne nous retrouverons peut-être pas dans les mêmes conceptions et dans les mêmes réponses. Est-ce une conception matérialiste? Une renaissance de notre corps qui nous ferait, par exemple, refuser l'incinération? Ou qui irait, comme dans les temps anciens, jusqu'à l'embaumement? Notre corps n'est-il pas juste le siège de notre vie, de l'incarnation de cette vie que Dieu nous offre pour un temps donné, et rien de plus? Il nous faut rappeler que l'homme est unique, irremplaçable, global, intègre. C'est un seul et même Dieu qui l'a créé tout entier, tel qu'il est, à son image. Notre vie dépend de Dieu pour toujours, de notre naissance à notre mort et après notre mort. La résurrection n'est pas une vie que l'on recommencerait depuis le zéro, dans une sorte de logique du temps qui passe comme une suite chronologique qui permettrait d'oublier pour continuer à vivre. Dieu nous révèle en fait une autre réalité du temps qui passe, un temps sans la mort. Notre temps de vivant, morcelé, incohérent, dispersé dans toutes nos activités, sans lien, qui se trouverait ainsi réuni à la résurrection dans la mémoire de Dieu. Notre vie serait ainsi récapitulée, sauvée, gardée pour toujours en Dieu. Alors comment encore mieux comprendre ce qu'est la résurrection et par quels signes pouvons-nous comprendre ce mystère? C'est là le premier lieu et le premier temps de notre résurrection, dans l'espace de notre rencontre avec Jésus, dans le partage du pain et du vin, dans l'annonce, le signe et la promesse de ce royaume qui vient et qui en fait est déjà là. Il est aussi dans le baptême, dans l'alliance fondée à jamais, dans notre rôle de fils qui sait admettre qu'il ne sait pas tout, dans cette humilité de l'homme qui ne comprend pas tout et surtout qui ne doit pas se prendre pour Dieu. Le mystère de la résurrection, pour conclure, c'est le miracle de l'amour de Dieu. C'est ce miracle de la confiance à celui qui vient à ma rencontre et en retour dans l'amour à celui pour qui je suis vivant pour toujours, parce que lui est le vivant à jamais. En Jésus-Christ, ce mystère de la résurrection m'est réaffirmé à moi aussi. Dieu est le Dieu des vivants. Pour Dieu, tous sont vivants. Je suis vivant et vous l'êtes, vous, chacun, chacune d'entre vous, vous aussi. Lui et lui seul est notre unique espérance. Amen.